du premier ministre du Québec. Tu as tout à fait raison. Cependant, le premier ministre du Canada nous a demandé, quand on l'a rencontré à Ottawa il y a deux semaines, allez rencontrer vos homologues américains. Ça va nous aider parce que plus on est nombreux à parler à plus de monde, à des Américains qui vont parler aux Américains, ça va permettre de sensibiliser aux effets des tarifs. Les Américains vont aussi souffrir des tarifs et des contre-tarifs. Mm-hmm. Alors, on répond à ce travail d'équipe. Le maire de Québec, là, il ne va pas changer la situation. Est-ce que quand je vais aller à Washington, je vais revenir, je vais faire « Donald, il m'a compris, il a tout changé ». Mais non, ça n'arrivera pas. C'est pas ça, là. Je me prends pas pour quelqu'un qui va changer la situation. Mais avec 26 maires et mairesse des Grands Lacs, parce que c'est l'Alliance des villes des Grands Lacs, on va à Washington, puis on va, à notre tour, ajouter un peu d'eau au moulin à celle des premiers ministres du Canada, à celle du premier ministre du Canada, pour faire en sorte de dire, bien, on parle à plein de monde qui, on l'espère, une fois majoritaire, vont finir par dire aux Républicains, on y perd tous dans notre économie. C'est juste ça.
Ah, en terminant, M. Marchand, le cas de la bombe, allez-vous lire ça?
Je sais pas. Je me suis pas posé la question. Je sais que ça sort bientôt, là. Je sais pas.
Quelqu'un qui a runné la ville que vous runnez présentement, il me semble que ça amène au moins un petit peu de curiosité.
Ben, oh oui, non, il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt, certainement. Est-ce que je vais lire? Je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question.
Question qui peut paraître vague, mais en même temps, c'est une interrogation qui revient beaucoup, particulièrement dans les dernières semaines, parce que, bon, on sera en campagne électorale éventuellement, puis il y a des gens qui vont devoir choisir qui va représenter la ville dans les quatre prochaines années. On s'en va où, au juste, avec le maire Marchand?
Pour les quatre prochaines années?
Oui.
On s'en va vers une ville qui fait face à ses défis puis qui s'en va vers de l'avant, qui reste et qui développe son attractivité internationale pour attirer du monde, des entreprises ici, qui développe son économie, dont la nouvelle économie, avec des nouveaux entrepreneurs, avec du monde qui nous amène ailleurs, qui développe sa mobilité, qui fait face, qui se bat contre la congestion, qui offre la santé à ses citoyens. Une ville qui est capable de faire face à ses défis puis de, dans la compétitivité mondiale des villes, là, qui est extraordinairement bien placée, mais qui le fait avec une rigueur de sa gestion financière comme les meilleures villes au Canada, les meilleures villes au monde. Croissance des taxes la plus basse possible, comme on a vécu depuis 4 ans, diminution de la dette, diminution du service de la dette pour faire en sorte que l'argent des citoyens, on la respecte et on la gère comme la prunelle de nos yeux. Ça, c'est la base. Si on ne fait pas ça, on n'est pas des bons politiciens.
Merci, Monsieur le maire.
Salut.
Le maire de Québec, Bruno Marchand, réagissez, évidemment. 418-971-1021. C'est Gravel dans le retour à Boulevard. On revient. Comme dirait Audrey, mensonge! C'est pas vrai qu'on revient, on a fini. C'était la rediffusion de l'entrevue avec le maire Marchand réalisée plus tôt aujourd'hui. Marceau s'en vient. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres. Demain midi, dévoilement de la programmation du FEC dans le Pit Stop. Soyez là avec nous autres.
Boulevard 102.1. Ils ont dit que la télé allait tuer la radio. 2025, puis on est encore là.
Plus fort que jamais.
Ce que j'apprécie, c'est que j'ai le temps d'expliquer des choses. Mais tu sais, il y a d'autres fois que je vais dans d'autres postes de radio que j'ai pas le temps de faire ça. Fait que là, ben, je suis comme plus obligé d'arriver avec des lignes de communication déjà prêtes. Ouais. Tandis qu'avec vous autres, j'arrive avec pas de lignes de communication prêtes parce que je sais qu'on est capable d'avoir un échange constructif.
Boulevard 102.1, la radio du futur.
Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom c'est Yannick Marceau, très content de jaser avec toi pour les 60 prochaines minutes. On a un sujet super intéressant. Juste avant, la météo pour ce soir, ce sera nuageux, des probabilités d'averse encore là qui restent à 40%, c'est ce qu'on nous mentionne. Peut-être de la neige aussi vers les alentours de minuit, minimum de 0 degré pour ce qui est de ce soir et cette nuit. Pour ce qui est de demain, mercredi, on nous parle d'une journée qui sera probablement avec beaucoup de nuages. 40% de probabilité d'averse de neige tôt en matinée. Ce sera un ciel dégagé par la suite, donc une belle après-midi. Un bel après-midi, devrais-je dire, maximum de plus 3 degrés. Jeudi, ce sera de la neige, maximum de 0. Et vendredi, ce sera de la neige intermittente avec un maximum de moins 4 degrés. Donc voilà pour ce qui est de la météo pour Québec et les environs. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Raymond, ou qu'on appelle amicalement Pat Raymond. C'est le gars du podcast Financièrement parlant. Il est aussi un ex-gestionnaire de patrimoine et c'est un ex-militaire de l'armée canadienne. Donc le podcast de Marceau Soir, ça commence à l'instant. Bonne écoute.
Marceau le soir, la meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir, le soir, le soir.
Salut Pat Raymond.
Allô, comment ça va, Yannick?
Ça va très bien, très content de te jaser ce soir. On va parler d'argent. Il y a des gens qui nous entendent actuellement, que ce soit dans la voiture ou sont peut-être encore au bureau à cette heure-ci, oui. Ou sont peut-être encore à la maison comme dans le temps, qui disent « on va parler d'argent ce soir ». C'est pas tout le monde qui veut parler d'argent. Puis ce midi, avec ma collègue de travail, oui. On jasait. Denis était avec nous, Denis que tu connais bien.
Oui.
Puis on parlait de l'argent, en fait. Est-ce qu'on en parle à nos conjoints? Quand est-ce que ça arrive, ça, cette discussion-là,
ouais,
sur l'argent?
Ça.
Est-ce que tu en parles avec tes collègues? Dans une entreprise, quand tu commences à parler d'argent avec tes collègues, ça peut être assez litigieux, Pat, parce qu'il y en a qui peuvent gagner plus cher que toi et il y en a qui peuvent gagner moins cher que toi alors que vous faites la même tâche.
Tout à fait.
Il y en a qui sont là depuis très longtemps, qui gagnent le même salaire que toi, mm-hmm. alors que tu es là depuis un an. Et si tu en parles, et si eux apprennent ça, bien là, à un moment donné, ça va venir aux oreilles du boss en disant, t'es peu, moi, ça fait 7 ans que je suis là. Puis il y a le petit Marceau, le petit gossant,
ouais.
il gagne la même affaire que moi. Patron, je veux une augmentation de salaire. Tu parles-tu d'argent régulièrement, toi? Toi, tu es un ex-gestionnaire de patrimoine, fait que j'imagine que tu parlais de l'argent surtout des autres. Mais dans ta vie personnelle, tu parles-tu de l'argent?
Oui, bien, je te dirais, Yannick, ton point est bon. Je suis quelqu'un qui parle tout le temps d'argent.
Ouais.
Je peux tomber ses nerfs aussi.
Comment tu fais par année?
C'est une passion. Bien, tu sais, moi, je me décaisse un montant maintenant par année parce que je suis comme officiellement à la retraite et je vis de mes investissements.
Ouais.
Et le discours est différent quand tu es rendu à ce stade-ci parce que tu dis, bien, moi, je me sors 75 000 par année. Ah, cette année, j'ai eu besoin de 100 000. Ah, je me sors 80.
Ouais.
Là, tu dis... Il va faire combien d'années de même? Si je me sors 115, il va m'en manquer à 68.
Mais toi, c'est tes placements, parce que toi, tu es un ex-militaire, tu es un ex-gestionnaire de patrimoine,
oui.
Tu as fait des placements, tu as commencé l'immobilier rapidement, puis là, après ça, tu t'es dit, tiens, c'est ma retraite. Fait que
oui.
Tu dises au monde, je me suis décaissé 115 000 cette année ou je me suis décaissé 65 000, moi, ça ne me dérange pas. Mais admettons qu'on fait le même travail, toi puis
oui.
moi. Puis là, j'apprends que tu gagnes 25 000 piastres de plus. Je trouve, ça peut être frustrant pour les individus.
C'est
ou je parlais avec Pascal, que tu connais.
Oui.
Elle me dit, ben moi, j'ai des chums de filles qui ont dit dans des dates, ben c'est combien tu gagnes au gars qu'elle convoitait. Puis moi, je me suis jamais fait poser cette question-là parce que toi puis moi, on est à peu près à la même âge. On fait à peu près partie de la même génération.
Oui.
Chez nous, l'argent, c'était tabou. Bon, on n'avait pas, fait que c'était assez réglé. Mais même mes oncles, mes tantes, ils parlaient jamais d'argent autour
ah ouais,
de
jamais.
La table. J'avais jamais entendu parler de leur salaire. T'sais. Mes grands-pères paternels, grand-père maternel,
mm-hmm.
les deux étaient policiers. Fait que là, on était capable de savoir à peu près comment ils gagnaient parce que tout le monde dans la police gagnait à peu près la même affaire.
Oui.
Mais ceux qui étaient, je sais pas, moi, ceux qui travaillaient dans des bureaux, ceux qui étaient gestionnaires, tout, jamais ils nous parlaient de leur argent. Jamais.
Ouais.
Et aujourd'hui, les nouvelles générations, on dirait qu'ils sont plus à l'aise à parler d'argent. Des jeunes collègues qui peuvent rentrer dans une entreprise qui disent à l'autre, « Hey, toi, tu gagnes combien? Ça fait 5 ans que tu es dans le business. L'autre, ça fait 2 minutes que tu le connais. Toi, tu gagnes combien? Parce que là, moi, je gagne ça, je trouve que c'est pas assez. » Très rapidement, ça rentre dans le sujet.
Oui, je pense que la nouvelle génération sont très, très ouverts.
C'est-tu les OGM?
Des fois, tu sais, moi, j'ai un groupe sur Facebook, questions financières là,
ouais.
de mon podcast, financièrement parlant. Et je dois dire que des fois, les gens ne sont pas nécessairement anonymes. Puis là, ils posent une question directement sur le mur. Voilà, je gagne tant, nanana, je travaille à telle place, puis tout ça. Est-ce que je devrais négocier mon salaire? Est-ce que je devrais demander? Est-ce que je devrais. Puis là, c'est assez fascinant. Moi, jamais je vais publier. Nécessairement, quand j'avais un salaire, jamais j'aurais publié mon salaire. Effectivement, moi, je viens d'une génération où on ne dit pas combien qu'on gagne, mais ce n'est pas une question non plus de compétition. Est-ce que celui-ci gagne tant? Ben moi, je mérite tant. Puis comme tu sais, j'étais quand même 20 ans des forces armées / réserve. Et à travers tout ça, ben, j'avais parti mon cabinet de services financiers, gestion de patrimoine, etc. Un bout de temps, j'ai fait les deux en même temps. Et bien sûr que dans l'armée, on connaissait nos salaires. Donc ça, c'est pas vraiment un bon exemple parce que c'était public.
Ouais.
Et il y a beaucoup de gens dans les services publics que là, ben, c'est connu, tu sais. Mais je sais pas, moi, l'exemple des policiers ou des pompiers, ben souvent, on sait notre collègue combien qu'il gagne parce que ça fait 8 ans qu'il est dans le service. Ou un enseignant, il y a l'échelon 12, ben il gagne à peu près tant. Puis bon, on voit. Mais là où c'est particulier, c'est drôle que tu parles de ça parce que je pense au domaine des communications, la radio, le marketing, dans des boîtes privées, puis tout ça. Où là, tu as un nouveau qui arrive, mais le nouveau, il y a une valeur parce qu'il y a une expérience, puis tout ça, mais qui peut chicoter les autres qui sont déjà là depuis des années.
Ouais.
Mais le nouveau qui arrive, c'est arrivé avec un bagage. Il y a une valeur. Tu sais, moi, je dis souvent aux jeunes de développer sa valeur sur le marché du travail. Combien tu vaux sur le marché du travail? T'sais, est-ce que ça va me coûter de te remplacer? T'es-tu facile à remplacer? Fait que tu sais, des fois, tu as quelqu'un, l'exemple de la radio, mais ça peut être dans n'importe quoi d'autre, tu as quelqu'un qui arrive, il y a un nom, comme on dit, là, il est connu. Donc là, la notoriété, t'accordes combien à de la notoriété? Fait qu'évidemment, l'autre que ça fait 7 ans qu'il est là, mais qu'on ne le connaît pas, bien à ce moment-là, oh, tu vas ajuster mon micro, parfait. À ce moment-là, c'est certain que s'il ne comprend pas, bien du moins, ça fait 8 ans que je suis là. Oui, mais attends, t'es peu, là. Lui vient d'arriver, mais il y a une notoriété parce que ça fait tout le monde connaît cet individu-là.
Ouais.
Alors moi, je l'emmène en onde, par exemple, mais les gens le connaissent déjà.
Il y a ça qui peut être différent valeur, dans le monde des médias, mais tu sais, dans les entreprises, c'est pas tout du monde des médias. Là. C'est des gens, gens qui font divers métiers.
Privée,
il y en a qui sont rentrés par la porte arrière, puis il y en a d'autres qui sont rentrés parce qu'ils ont des diplômes. Et là, le propriétaire d'entreprise, propriétaire de PME, a Pierre, qui est là depuis 10 ans, qui fait très bien le travail, puis le jeune diplômé qui sort de l'école, puis lui, il a besoin de quelqu'un absolument, puis ce jeune diplômé-là, il y a comme 4-5 autres entreprises qui veulent l'embaucher. Fait que là, ce jeune-là, il va se vendre au plus fort la poche,
oui,
ou celui qui va lui offrir la meilleure qualité de vie.
Oui.
Il va arriver dans cette entreprise-là, puis il va côtoyer des gens qui gagnent peut-être moins cher que lui alors qu'ils sont là depuis plus longtemps. C'est touché, parler d'argent.
Mais là, c'est ça, c'est l'ancienneté. Mais là, tu sais, c'est sûr que le domaine, des fois, dans le domaine syndical, l'ancienneté a une valeur. Ouais, mais t'es peu, là. Lui, il arrive avec 4 diplômes. Il arrive avec une... Il est attrayant.
Ouais.
Tu sais, il arrive avec un bagage qu'il a une valeur. Comme tu dis, s'il y a 3-4 compagnies qui le veulent, bien là, moi, je le veux aussi.
Mais ça peut faire de la jalousie.
Ben,
ça peut faire de la jalousie.
C'est certain que l'argent, là, ça peut faire du mal comme ça peut faire du bien.
J'ai le goût de rentrer dans la vie des auditeurs puis dans la tienne aussi, dans ta vie personnelle.
Ah oui.
Les auditeurs, est-ce que vous êtes toutes, si vous êtes en couple, est-ce que vous partagez un compte conjoint avec la conjointe?
Tu vois, moi, j'ai mon compte, ma conjointe, elle a son compte, mais on a un compte conjoint qu'on alimente.
Oui. Moi, j'ai toujours été à mancher comme ça. Avec la mère de mes enfants, c'était ça.
Oui.
On avait un compte conjoint, mais c'était uniquement pour l'hypothèque. On mettait ça dans ce compte-là.
Ou les enfants.
Et par la suite, la caisse se prenait son argent. Pour ce qui est des enfants, on se parlait à la fin de la semaine. Comment ça t'a coûté cette semaine?
Ah, OK.
Ah, je te fais un transfert. Mais quand on parle aux anciennes générations, ceux qui sont ensemble depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, eux, très jeunes, ont appris à partager leur compte avec la conjointe puis le conjoint.
C'est
puis
vrai.
On leur jase de ça puis ils disent « Ouais, vous marchez de même, vous autres, c'est un peu bizarre. »
Ben c'est parce que avant ça, les couples duraient. Aujourd'hui, inconsciemment, on ne souhaite pas, mais inconsciemment, on se dit, bien, d'un coup, ça se termine ou tout ça.
Ouais.
On bâtit un peu notre vie familiale en fonction que si jamais ça se termine, j'espère que vous avez un contrat de vie commune si vous n'êtes pas marié, mais au moins, si ça se termine, bien, on a une certaine indépendance.
Ouais.
Parce que moi, je pense que les gens sont beaucoup plus conscients. La durée des couples aujourd'hui, c'est pas malheureusement, c'est pas si élevé. Et quoi? C'est un couple sur deux qui se sépare.
Ouais.
Et ça, c'est très coûteux sur la vie financière d'individus parce que des séparations, comme la maladie, c'est des choses qu'on n'ose pas parler, mais c'est ça qui coûte le plus cher à quelqu'un.
Exact.
Ou un mauvais associé, un mauvais choix d'associé.
Ouais.
C'est horrible. Des atrocités financières qui peuvent arriver que tu ne contrôles pas puis qu'à un moment donné, la vie fait que... Je pense qu'on veut se protéger. Personnellement, je dois dire que moi, je protège mes affaires, puis en fonction des enfants aussi. Nous autres, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Les enfants approchent tranquillement, pas vite, là, 18 ans, ça va très vite. Mais en même temps, on sait très bien que les enfants, c'est pas à 18 ans que soudainement, ils n'ont plus besoin de nous. Là. Ça continue. Fait que notre priorité est axée beaucoup sur les enfants. Et hey, des enfants, Yannick, t'en as deux, là. Juste, je dis ça au passage, là. Des enfants, là, tu sais, ils ont évalué que c'était pas loin de 300 000 par enfant. De 0 à 18 ans, moins les allocations, on peut peut-être enlever 30, 40, 50 000, 60 000 d'allocations qu'on aura eues sur les années.
Ouais.
Mais quand tu y penses, là...
Moi, j'ai calculé mon année 2024, là. OK? J'ai calculé mon année 2024. Le hockey, là, j'ai deux gars, moi, mais j'ai deux petits joueurs de hockey. Total, tout, avec les dépenses, là, ça m'a coûté 18 977 $. Pat, j'ai pas les moyens d'avoir des enfants.
Pour les deux?
Je leur ai dit, puis ils veulent pas s'en aller. Hey,
ben juste
quasiment
juste...
20 000 $ pour le hockey. Pat,
ben oui.
C'est rendu fou, là. là, ça coûte cher. Puis là, tu sais, moi, avant de connaître du monde comme toi, là, qui me disait « calcule tes affaires », ma vie allait bien. Je disais « les enfants, ça coûte rien ». Quand j'ai commencé avec mon petit fichier Excel, là, à calculer tout ce que je pouvais dépenser pour bon, le nouvel équipement, le nouveau bâton, parce qu'il était fâché, il a tiré à côté du but. Fait que c'est pas de sa faute à lui, c'est la faute du bâton. Donc, il donne un coup de bâton à terre, son bâton pète. Ça coûte 200$, 300$ maintenant. Hey, ça m'a coûté 20 000$ mon année 2024 pour deux enfants quand je calcule l'essence, quand je calcule les hôtels, quand je calcule les tournois aussi, parce que ça nous coûte, faut tout le temps défrayer des coûts. Les restaurants, 20 000$.
D'argent net.
D'argent qui a été imposé, là, c'est ça.
Après impôt.
Exact.
Et tu n'as pas eu 20 000 piastres d'allocation et de crédit, là.
Fait que là, je parlais à mon gars de 8 ans, puis mon autre gars de 11 ans, il est en face de moi, puis j'ai dit, les gars, il va falloir tout simplement quitter la maison puis aller voler de vos propres ailes. Puis là, il me trouvait un peu ingrat, mais c'est tough. C'est vraiment
Mais la
tough.
Question se pose, d'ailleurs, c'est pour ça que les familles sont de plus en plus petites, parce que la question se pose, avons-nous encore les moyens? Avons-nous les moyens d'avoir des enfants? Tu sais? Il fut une époque où, c'est l'ami Francis Gosselin, l'économiste qu'on a le privilège d'entendre sur les ondes, on a le privilège d'entendre sur Cube, entre autres, et Francis, que je connais un peu, et il avait sorti un article dans le Journal de Québec de Montréal qui mentionnait, mais qui relatait l'époque de Bourassa où on offrait au troisième enfant un montant assez substantiel.
Les bébés bonus,
voilà. Ouais. Il demandait ouvertement, comme ça, évidemment, il y a eu beaucoup de commentaires, des trucs, des choses négatives. Il demandait si, avec un bébé bonus, on appelle ça comme ça, est-ce que vous seriez enclin à avoir un troisième enfant? Mais déjà, d'en avoir un et deux, bon, les deux sont à l'école, l'école privée, là, le secondaire. Là. Il n'y a pas de crédit pour le secondaire. Là. Il n'y a pas de, c'est pas le régime épargné de ça. Tu peux rien utiliser de ça.
Exact.
Et là, il sort de l'argent net, comme tu disais. Là. C'est de l'argent net. Ça coûte 6 000, 7 000 avec les sorties, puis les trucs, puis les forfaits sport, puis l'option ceci, puis l'option là. Puis là, tu dis ça, c'est de l'argent net. Alors, j'ai travaillé pour 10 000, 12 000, 13 000 pour pouvoir payer un enfant. Puis ça, c'est juste l'école.
Exact.
Là, il n'y a pas mangé. Ouais. Il n'y a pas. Fait qu'à un moment donné, je ne peux pas croire qu'on peut se permettre trop de luxe parce que nous, personnellement, l'argent est investi. Je veux dire investi, je n'aime pas dire dépensé, mais est investi dans nos enfants. Et ça, moi, j'envisage qu'à 20 ans, puis à 21 ans, puis à 22 ans, là, ce sera peut-être le régime épargne études qui va combler, mais il y aura quand même des coûts. Puis c'est drôle parce que, écoute, ma sœur que je salue, je sais qu'elle écoute la station, et à 18 ans, ma filleule qui a eu 18 ans, puis là, il n'y avait plus de crédit d'impôt, d'allocation de famille, etc., allocation canadienne et Québec, etc. Mais qu'elle a dit, à 18 ans, ça n'a pas changé du jour au lendemain. Elle va encore dans le frigo, puis elle vit encore, puis elle est aux études, puis je suis responsable encore. Alors, du jour au lendemain, c'est plusieurs centaines de dollars par mois, monoparental.
Qui sort?
Qu'elle a pu.
C'est ça.
En allocation de famille, là. Mm-hmm. Elle évaluait ça autour de 700 à 800 $ de quelque chose comme ça qu'elle a pu. Puis elle dit, mais c'est pas parce que ma fille est rendue à 18 ans que soudainement, ça coûte... Ben non, ça coûtait aussi cher, puis elle continue à manger pareil, puis elle est aux études, puis elle doit subvenir aux besoins.
Ça prend si peu de temps. Enfin, moi, ça m'a pris 30 secondes, puis là, je pognais avec ça jusqu'à la fin de mes jours, puis...
C'était long.
C'est pas parce que ça coûte cher qu'il faut que tu t'en débarrasses. C'est ça que le policier a tenté de m'expliquer, là. Fait que je me suis dit, OK, c'est beau, je vais y garder. Mais, tu sais, c'est trêve de plaisanterie, là, ce 20 000 piastres-là... quand j'ai découvert que je le dépensais dans le hockey, je suis content parce que mes gars, pendant qu'ils jouent au hockey, bon, ils apprennent plein de choses. Ils se dépensent en jouant au hockey. Ils apprennent à avoir une équipe de hockey. C'est quoi une équipe? Ils apprennent à gagner. Ils apprennent à perdre. Il y a plein de choses au travers. Je considère ça, ce 20 000 piastres-là, que je trouve trop cher, le considère quand même un investissement sur la qualité de mes enfants maintenant puis probablement après, parce qu'ils vont avoir appris plein de choses.
Ouais.
Mais quand on commence à calculer, puis je sais que toi aussi, tu calcules comme ça. Tu sais, des fois, on se dit, mon Dieu, que le coût de la vie a augmenté. Mais à tous les jours, tu t'en vas chez Starbucks. Puis là, tu prends ton petit café aux épices là, avec la citrouille. Puis là, la personne, la commis, te dit, ben ça va être 8,28 $, monsieur. Puis là, toi, tu sors ton 8,28 $, t'es tout content d'avoir ton fameux café Starbucks là, qui goûte la citrouille.
Oui, c'est un petit bonheur.
Pour te vanter de ça à job. Tu sais, les moyens m'achètent du Starbucks.
Oui.
Mais si tu calcules ça sur un an, Pat, si tu calcules l'argent que tu as dépensé chez Starbucks, tu vas halluciner. Là. Des fois, on ne voit pas oui. où notre argent passe. Puis moi, le premier, là, tu sais, le matin, je pars, je m'en vais travailler à job, puis tu sais, je sens l'appel du Tim Horton, tiens.
Arrêtes-tu tous les matins?
Ben, je sens le café. J'arrive oui. au coin de rue chez nous, puis là, je sens que le café vient d'être coulé au Tim. Ben, je me dis, j'ai pas le choix, c'est l'appel du café, puis j'y vais. Mais mon argent passe là aussi. Puis comme tu le dis, c'est de l'argent imposé. Fait que mon 3$ de Tim que ça me coûte, j'ai travaillé pour 6$. Là.
Pratiquement. Et à la fin de l'année, dans le non-essentiel, souvent quand on se met à budgéter, parce qu'il faut budgéter justement pour savoir où va votre argent, on se met à budgéter, puis souvent à la fin de l'année, On allait chercher à l'époque, comme si ça faisait, moi, ça fait 2 ans et demi à peu près que j'ai vendu mon cabinet, mais j'étais déjà en contact client il n'y a pas si longtemps. On arrivait à aller chercher 1 800, 2 000, 2 500. Règle générale, on allait chercher ça. Et évidemment, il y a des compromis à faire,
ouais.
mais on coupait, bon, comme tu dis là, on coupait par exemple sur, je ne veux pas nommer des noms d'entreprise, mais sur des petits besoins qui sont non essentiels, on disait, ben, une fois par semaine, le vendredi, pourquoi pas? Mais voici ce qu'on va aller chercher par rapport à ça. Et cette dépense-là, et cet abonnement-là, et ceci, est-ce que c'est vraiment essentiel? Et là, tes trucs que tu appelles avec ton application, que tu commandes avec ton application, pour nommer plein d'applications, là, en as-tu vraiment besoin? Est-ce que tu n'aurais pas pu préparer un repas chez toi? Tout ça? Là, au final, c'est sûr qu'il y a des compromis, ça a l'air plate, mais c'est là qu'on va aller chercher le 1000, 2000 annuellement, 3000, qu'on va faire travailler pour nous. Ici, tu prends cet argent-là, puis on parle de REER à cette époque-ci, là, pas à cette époque-ci, mais au moment dans l'année, on prend ce 2-3 000-là et mettons qu'on l'envoie dans le REER. Là, c'est le contraire, c'est qu'on va revoir l'impôt qui a été pris sur ce montant-là. Alors, ton 3 000 redevient un 5 000.
Exact.
Alors, en café, je suis parti de 3 000, j'ai fait comme, je me suis rendu à 5 000. Et là, maintenant, si tu fais un rendement de 5 %, 6 %, 7, peu importe où tu es investi, c'est à côté sur 5 000. Donc, ton rendement est sur maintenant 5 000 et l'autre année d'après, et l'autre année d'après, et l'autre année d'après, et ton rendement est sur un plus gros montant. Puis au bout de 5-10 ans, ben le compromis de ne pas avoir pris des cafés ou un petit sandwich en hypocrite à peu près à chaque jour, c'est quoi le compromis dans le fond? Pour aller chercher, moi j'entends, la sécurité financière, l'aisance de pouvoir être, tu te couches le soir, puis être sur tes deux oreilles, d'avoir l'esprit tranquille. Puis je pense, en tout cas, je ne vais pas m'assigner avec grand monde, je pense que les enfants, c'est une priorité.
Ouais.
Fait qu'avant d'aller chercher la voiture que tu ne peux pas te permettre, ben il faut absolument regarder, voir si les enfants, tout est comblé. Puis
moi, je transforme ça en heure de travail. Combien je gagne de l'heure?
Oui, tu pourrais faire ça aussi.
Pour cette activité-là que je vais payer uniquement pour moi, je vais avoir travaillé combien d'heures pour me payer cette activité-là? Est-ce que ça vaut la peine? Oui ou non? Il y a d'autres choses. Je vais te raconter une histoire. L'histoire du petit Yannick. Ça a commencé en 1733. Non, c'est pas vrai. Mais j'étais autour de 18-19 ans. Bon, j'étais en appartement très jeune. Moi, j'étais autour de 15-16 ans. Je déménageais à côté d'un cégep en chambre parce que je voulais être autonome. Moi, le petit Yannick a toujours été un grand... Il n'a pas l'air de ça.
Indépendant.
Là.
Hein?
Quand tu regardes ça sur photo, tu te dis ça a l'air de rien. Mais je voulais être indépendant et oui. autonome. Fait que j'avais passé une entente avec ma mère, qui était monoparentale de l'époque. Puis j'ai dit, garde. Je te promets que je vais venir manger dans ton frigidaire à tous les jours, mais j'aimerais ça avoir ma chambre à côté du cégep pour voyager le moins possible. Puis elle avait accepté, puis elle avait signé pour moi. Ce qui fait que dans le temps, c'était à côté du cégep de Limoilou.
Oui, oui.
Bon, il y avait le pub qui était à côté, ça, j'avais pas parlé du pub, mais j'avais déménagé dans cette chambre-là, puis ouais. j'avais pas eu moyen de me payer le téléphone et tout ça, j'avais rien de ça. Après ça, j'ai pogné le 18-19 ans, puis là, j'ai commencé à travailler dans la restauration. Fait que là, je commençais à être, je pense, milliardaire. Oui, milliardaire. Fait que je faisais peut-être 100$ par jour de pourboire. Fait que j'étais super heureux. Puis je me suis dit, hey, je vais m'abonner, moi, au câble. J'avais jamais eu le câble chez nous, chez mes parents. T'sais. Fait que c'était une fierté d'avoir le câble.
Ouais.
Ça me prend le téléphone maison. E.T. faisait ça dans le temps, E.T. Ouais. Après ça, si quelqu'un voulait me rejoindre, ben, à la maison, j'avais ça. J'avais mon cellulaire aussi. J'avais vu que des films, là, les acteurs importants, ouais. Y avait des cellulaires. Fait que j'avais mon petit téléphone à flip. Puis, bon, j'avais mon téléphone maison, j'avais le câble. Puis, à un moment donné, j'avais Internet aussi, là, un petit peu plus tard. Mais à un moment donné, j'avais Internet. Puis là, moi, j'ai resté abonné avec cette même entreprise-là pendant des années et des années, Pat. Puis à chaque année, ou peut-être 3-4 fois par année, m'envoyait une lettre, votre service va augmenter de 2 piastres, votre service va augmenter d'une piastre, votre service va augmenter de 3 piastres, ce qui faisait en sorte que, je te dirais, vers 2011, mon forfait, là, Internet, téléphone maison, téléphone cellulaire, puis le câble, c'était autour de 200 piastres. Hey, ça coûtait une fortune, 200 piastres.
À cette époque-là.
Quand on regarde ça aujourd'hui, ben oui. on était fous de payer ça, mais on le faisait, on avait besoin de ça. C'est un besoin essentiel.
En même temps, c'est un statement. Tu as l'air à dire que tu te pensais un petit peu plus riche, puis là, tu as dit, je veux ces services-là. Tu n'avais pas d'égard aux augmentations. Toi, parfait, on accepte.
À partir du moment où j'ai eu le câble, je suis devenu hautain et prétentieux. Mais là, tout d'un coup, je suis chez moi, dans ma maison que j'avais rénovée par moi-même.
Oui.
C'était un shack à patates, mais je l'avais rénové. J'étais très heureux. Il y a quelqu'un qui cognait à la porte, puis qui était une entreprise concurrente de l'entreprise avec qui je faisais affaire depuis des années, qui ne cessait d'augmenter ses frais. Et là, la dame est là. Bonjour, je suis représentante pour telle entreprise, sans la nommer. Puis on vient de passer la fibre optique dans votre rue. Et est-ce que je pourrais savoir si vous êtes abonné au câble, Internet et tout ça? Je dis, oui, j'ai tout ça. Moi, je suis indépendant. Et elle a dit, est-ce que je pourrais savoir comment ça coûte? Je dis, madame, c'est personnel. Ben, elle a dit, parce que je pourrais peut-être couper votre facture à moitié. Ben là, j'ai dit le prix. Ben, madame, c'est autour de 170-200 là, de mémoire. Mm-hmm. Elle a dit, parfait. Elle a dit, c'est quoi le forfait que vous avez? OK, non, c'est beau. Ben moi, je chargerais un 110$. Là, il y a un timbre sonore. Tu sais, un timbre sonore. Ouais. Ouh! Elle vient de me sacrer un coup de poing, là, c'est clair. Elle est en train de couper ma facture de moitié. Fait que j'appelle l'entreprise avec qui je faisais affaire depuis presque 20 ans. Mm-hmm. J'ai toujours été fidèle à cette entreprise-là. Mm-hmm. J'ai jamais raté un paiement. Bon, il y a peut-être des fois où ça a coûté trop cher de Coors Light. Fait que je remettais ça au prochain mois. Mais j'ai toujours été correct.
Ouais.
Je l'appelle et je dis, bon, là, il y a une dame qui est à la porte. Elle m'offre 110$ pour tout ce que vous m'offrez pour 170, 180, 200$. Ouais. Parfait. Ben nous aussi, on va accoter 110$. Là, j'ai compris quelque chose qu'on ne m'avait pas expliqué. C'est magazine à chaque année. Que ce soit ton forfait cellulaire, que ce soit ton forfait Internet, que ce soit tes assurances. Magazine tout le temps parce que c'est là que tu vas sauver le plus d'argent. T'es mis en compétition. C'est fini la fidélité avec les entreprises. « Oh, ça fait 20 ans que vous êtes avec nous. On va vous féliciter, monsieur. On va arriver avec des ballons à la maison.
Ouais, » c'est ça.
Puis le clown.
C'est pas reconnu de toute façon.
Ça ne l'est plus. À l'époque, moi, on m'a élevé de même. Tu sais, quand tu es fidèle à une entreprise, quand tu payes bien, tu vas être bien récompensé.
Exact.
Ils m'ont mal élevé. C'est pas vrai. Faut-tu mettre les entreprises en compétition?
Mais c'était comme ça avant.
Je sais que c'était comme ça, avant, mais ils m'ont pas préparé au monde rude dans lequel on est actuellement. Fait que...
Et ça s'améliore pas.
Non, ça s'améliore pas. Mais c'est pas grave, je suis plus fatiguant qu'avant. Fait que là, moi, j'ai compris que, exemple, une compagnie d'assurance, OK? Oui. Là, je m'excuse pour tous ceux qui vendent des assurances, là. Ferme la radio, OK? La première lettre qu'il t'envoie pour ton renouvellement d'assurance, là, elle t'est pas envoyée par ton courtier.
Là, tu parles d'assurance générale.
L'assurance générale. Ouais. Elle t'est pas envoyée par ton courtier. Elle est envoyée par l'algorithme. Elle est envoyée par l'intelligence artificielle. Elle est envoyée par des ordinateurs qui disent, ben voici dans tel secteur, assurance, maison, même type. Pouf! On t'envoie un chiffre qui, pour la machine, est hyper logique.
Mm-hmm.
Puis toi, ben, tu as la chance d'accepter ou non.
Mm-hmm.
Mais ce qu'ils ont compris, les compagnies d'assurance, c'est que la plupart des gens ne magasinent pas. Ah, ben OK, c'est une augmentation de 25$ cette année ou c'est une augmentation de 100$ cette année.
Ça doit être normal.
Regarde, je n'ai pas le choix, c'est normal. Mais si tu l'appelles pour dire, hey, moi, là, je n'ai jamais réclamé de ma vie, puis là, vous me chargez 125$ de ça. Ah, mais vous savez, monsieur, le prix de la vie augmente, les cafés chez Tim Hortons augmentent aussi, c'est ça, c'est 150$ de plus. Là, tu leur dis, oui, mais moi, j'ai une entreprise qui me charge 300$ de moins que vous. Attendez un petit peu. Puis là, ils te mettent en attente. Puis là, il y a Herbert Léonard, là, ils te mettent...
flagrant délit.
Prison flagrant délit. À un moment donné, ils répondent, c'est juste au moment où c'est comme le refrain qui arrive, là,
oui, oui.
C'est jamais le bon temps. Puis ils disent, bon, vu que vous êtes un bon client, là, puis que ça vous coûte 300$
la rétention.
L'autre entreprise, entre guillemets, qui a bidé plus bas, ben on va l'accoter.
Ah oui.
Depuis ce temps-là, là, j'ai plus confiance en aucune entreprise. Fait qu'à chaque année, je fais ma vérification de tous mes services, puis à chaque année, je sauve de l'argent, Pat. mais je le savais pas. J'ai perdu 20 ans de ma vie parce que je côtoyais pas des gratteux comme toi.
Des cheap comme moi.
Des cheap!
Mais t'es toujours le nouveau client pour l'autre entreprise.
Exact.
T'es toujours un nouveau client.
Ouais.
Puis il y a des prix intéressants, attractifs pour les nouveaux clients.
Mais je trouvais ça triste que la fidélité, ça soit plus récompensé.
Non.
Bon, là, ma blonde n'écoute pas, là. Mais
ça dépend du contexte.
Je trouvais ça triste que la fidélité soit plus récompensée par les entreprises.
Au niveau commercial, effectivement.
J'ai été élevé comme ça. Fait que maintenant, les assurances arrivent, pouf, j'appelle. Ah, il y a 30 minutes d'attente. C'est pas grave, je vais attendre. Si je peux sauver 300$, mon 30 minutes est rentable en sacrifice, là. C'est sûr que j'ai pas ton
salaire.
C'est
souvent quelques cent dollars.
Ben oui.
C'est souvent quelques cent dollars ici, quelques cent dollars là. Et c'est là qu'on va aller chercher cet argent-là qui fait que des fois, ça va compenser aussi pour d'autres choses qui ont augmenté, dont on a moins le contrôle, comme les taxes foncières. Tu sais? Parce qu'il faut quand même aussi réaliser que certaines augmentations où on n'a pas vraiment le contrôle, bah, tu vas me dire, on peut quand même aller, comment on appelle ça, là, des taxes foncières, puis tu peux, j'allais dire répliquer, mais ce n'est pas ça le bon mot, puis aller de l'avant pour dire, j'accepte pas l'augmentation de taxes foncières, mais tu sais, règle générale, normalement, les gens vont accepter, puis bon, parfait. Mais si tu prends toutes les factures qui ont augmenté d'un 100$, d'un 200, d'un 300, et tu dis oui à tout, ben, au final, là, tout cet argent-là, que dans le fond, c'est du coulage, c'est de l'argent. Je reviens encore à ce que je disais tantôt. C'est de l'argent net. Il faut arrêter de... Quand on dépense 10$, si on dépense 15, on dépense 17, on dépense 20.
Exact.
Tu sais, chaque 10$, c'est pas 10$ que tu as dépensé. Et si tu es jeune, ton 10$, il représente quoi à ta retraite? C'est encore pire. Quand tu te mets... Toi, tu disais que tu comparais avec les heures de travail. Tu dis, ça me coûte tant, ça représente tant d'heures de travail.
Mais, mettons qu'on fait un chiffre rond. Là. Mettons, je gagne 20$ de l'heure. Okay?
Ouais.
Je travaille dans un dépanneur, je gagne 20$ de l'heure. Puis tout d'un coup, moi, j'ai une augmentation pour mes assurances de voiture de 300$. Il y en a des 20$ dans ce 300$-là. Là. Fait que ça vaut la peine de les rappeler pour dire, regardez, moi, j'ai pas...
Travaille 15 heures.
C'est ça. J'ai pas réclamé absolument rien.
Ouais.
C'est une augmentation de 300$. Je fais pitié. Regardez mon linge. Puis j'ai une entreprise qui me charge beaucoup moins cher que vous autres. Est-ce que vous êtes capable de faire votre bout? Le service de rétention va toujours faire en sorte qu'ils vont descendre votre facture pour vous rendre heureux puis de ne pas vous perdre comme client.
Ça, c'est vrai ce que tu dis. Mais la majorité des gens ne vont pas l'utiliser. Parce que l'autre affaire aussi, je vais te donner...
Mais tu as sauvé 15 heures de job si tu le fais.
Il y a une poigne dans notre belle société, c'est qu'on occupe tout le monde, on les met dans le jus, on leur donne le potentiel de s'endetter à l'os, on fait rouler l'économie, et à partir de là, ils n'ont plus le temps de se battre, ils n'ont plus le temps de répliquer. Ils n'ont même plus le temps, des fois, d'aller en cours pour telle ou telle chose qui aurait pu... Je ne parle pas de trucs criminels, mais je parle, mettons, d'aller plaider un ticket ou autre. On va le payer, là, pas de trouble, ici, puis ça. Puis finalement, tu sais, tu aurais peut-être gagné ta cause. Mais là c'est, les gens n'ont plus le temps de se battre. Et j'irais même plus que ça, Yannick. C'est que les gens n'ont plus d'énergie pour se battre puis d'essayer de sauver. Puis ils finissent par dire, bien, regarde, on va passer à la carte de crédit. On va payer avec la carte de crédit, puis je travaillerai plus. Puis, tu sais, aujourd'hui, les gens ont quand même un potentiel de faire des revenus. Il y a des gens qui gagnent des bons revenus. Il y a quand même beaucoup de bons revenus au Québec. Mais avec le coût de la vie, ils finissent par dire, après impôt, finalement, 100 000 $ par année, c'est pas tant que ça. Puis là,
ben
je ne veux pas insulter personne. Je veux pas, mais c'est quand même, ça peut être suffisant pour bien du monde. Mais il y en a bien qui rêvaient. Un jour, on va faire 100 000, un jour, on va faire 100 000. Hey, mais tu payes beaucoup plus d'impôts
ben oui, c'est
à 100 000
ça.
Que quand tu gagnais 50. Fait que là, tu peux pas faire ton rapport de dire c'est deux fois plus. C'est pas deux fois plus parce que tu as plus d'impôts. Fait que là, il y en a qui réalisent, qui disent finalement, c'est pas tant que ça. Et je voulais me gâter, puis acheter une nouvelle voiture, puis gâter les enfants, puis aller en voyage, puis faire des séjours. Puis... Mais non, il en reste pas assez parce que là, tout le reste a monté. Puis je pense qu'on veut de la bonne nourriture, la base, tu sais. On veut se nourrir, on veut se loger. Puis tout ça... On dit comme, c'est quoi le revenu de base aujourd'hui? Tu sais, vraiment, pour faire vivre, je parle toujours d'un ménage, d'une famille de quatre typiques. Là.
Mais tu disais 100 000
c'est un peu
tantôt,
cliché. Mais une famille de quatre, 100 000, c'est pas beaucoup. Hein?
Quand j'étais jeune, quelqu'un qui faisait 100 000, là, il était riche. Là, c'était le riche de la rue. Moi, dans le quartier où j'habitais, il n'y avait pas personne qui faisait 100 000, mis à part les vendeurs de drogue. Mais quelqu'un qui gagnait 100 000...
Il fallait qu'il le cache dans le mur.
Oui.
Il ne pouvait pas faire profiter ça. Ça vaut pas la peine.
Chaque fois que je changeais d'appartement, je vérifiais les murs. Mais quelqu'un qui faisait 100 000, c'était quelqu'un qui gagnait hyper bien sa vie.
Ah oui.
Aujourd'hui, quelqu'un qui fait 100 000, il faut qu'il se surveille. Puis les gens qui gagnent 30 000 ou 40 000 ou 50 000, c'est bien, là, 100 000, 100... mais c'est parce que les gens ne sont pas imposés au même taux. Là.
C'est
ça qu'il faut comprendre.
Je vais te donner quelque chose qui est frappant. Je vais te dire quelque chose qui est frappant. Tu vas prendre une personne monoparentale, deux enfants de mère, peut être un père monoparent, peu importe, à 40 quelques mille avec des enfants, évidemment, des enfants mineurs, un de moins de 6 ans, tout ça. Au net, c'est près de 50 000 de revenus nets. Puis, il fait, mettons qu'elle fait où il fait 40 000, au net, après allocation, crédit, redistribution, c'est 50. Puis, si cette personne-là gagne 100 000 avec les distributions, les allocations, puis ça, c'est autour de 70. Fait que c'est 20 000 de plus, c'est pas 50 ou 60 000 de plus.
Exact.
Fait que là, tout ça se calcule. Puis, c'est drôle parce que il est temps que les gens comprennent les fameux taux marginaux. Tu sais, on dit, je ne sais même pas si on voulait aller là à soir, mais juste une petite parenthèse. On paye 50 % d'impôts, on paye 50 % d'impôts.
Le soir, on peut aller où on veut, les patrons n'écoutent jamais.
Ah, c'est ça, on peut s'en permettre. Sans exagérer quand même. Mais tu payes 50 % d'impôts sur les revenus que tu vas gagner, par exemple, au-delà de 177 000, là, le 178, 179, 100. Ça, cette partie-là, là, c'est 50 %. Mais qui se rend jusqu'à... Il n'y a pas tant de monde que ça. C'est pas un gros pourcentage. Ici, on parle de 50 % d'impôts sur l'ensemble des revenus. Là, on parle du taux moyen de l'ensemble des revenus. Il faut gagner 700 ou 800 000 pour avoir payé 50 % d'impôts sur l'ensemble des revenus. Le marginal, c'est 177 000 et plus, tu vas commencer à payer 50 % d'impôts. Or, les gens gagnent en moyenne 58, 60, 63, 64. Là, il dit, ben oui, mais c'est 36,12 rendu dans cette tranche-là. Oui, mais pour quelques milliers de dollars. Le taux moyen est plutôt autour de 25, 26 % parce que ta première tranche, tu n'as pas d'impôt. Après ça, ça s'en va graduellement. La part des gens, tout le monde dit, je paye 50 % d'impôt. On paye en moyenne 25, 26 %, mais ce sont les charges sociales qu'on considère
exact.
Comme de l'impôt. Mais ta RRQ, tu
ça
vas être content
revenir.
De l'avoir.
Exact.
C'est quelqu'un qui meurt à 95 ans puis qui a pris sa RRQ à 65, c'est quelques centaines de milliers de dollars qu'il aura eu de la RRQ.
Mm-hmm.
Ton assurance-emploi, ben tu es content s'il arrive quelque chose, tu as une assurance-emploi. Ton RQAP, peut-être que là, tu n'auras pas d'enfant, mais il y en a qui en profitent.
Ouais. Mais il reste que tu vis aujourd'hui.
Mais
vis
ton
pas
dollar
pour...
disponible, je peux comprendre
c'est
que le dollar disponible, il est là le point.
Tu vis pas pour ce que tu vas avoir à 85, tu vis pour ce que tu as besoin aujourd'hui.
Je sais, je comprends.
Je te le dis souvent, Pat, parce que cette phrase-là, là, ça nous permet de revenir sur le plancher des vaches.
Oui.
Moi, j'ai des gens qui sont autour de moi, j'ai des auditeurs qui me disent « Yann, je suis plus capable de me loger. » Je travaille 50 heures par semaine, je suis célibataire, je suis pas capable de me trouver un appartement en ville, faut que je m'éloigne, ce qui fait en sorte que je me mets dans le trafic, puis je perds énormément de temps. C'est humiliant. C'est humiliant. Tu es avec ta conjointe,
t'as
les
raison.
Deux travaillent 40 heures par semaine, puis des fois, ben, le gars ou la fille décide de faire un chiffre de plus la fin de semaine, puis c'est pas suffisant. C'est humiliant en tant qu'être humain de travailler extrêmement fort puis pas être capable de te loger ou pas être capable de payer un petit montant parce que là, ton enfant, il va aller faire une sortie avec l'école, ça coûte 30 piastres. Quand tu dis à ton enfant, excuse, je le sais que tu vas aller à la sortie avec tes amis, mais je... Papa, c'est pas une bonne semaine. Là. On pourrait peut-être attendre, puis la prochaine fois, je vais te le payer. Tu sais. C'est humiliant pour ces gens-là. Là.
Parce que ce 30$-là, tu en as besoin pour faire une petite, on s'entend, là, une petite épicerie, des petits sandwichs dans un truc de plastique
sandwich,
avec peut-être un petit 7-Up on the side, puis tu
lait.
Vas être rendu à ton 30$.
Sac de lait, c'est 8-9$.
Puis, oui, le lait, peut-être. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu dis, là, j'utilise quoi, là? 50%, 40% de mon revenu disponible pour me loger, puis... C'est pas nécessairement l'erreur des gens parce qu'ils disent « Ben oui, mais là, t'avais pas les moyens puis t'étais embarqué. » Mais là, à un moment donné, t'as pas le choix. Puis comme tu dis, est-ce que je m'éloigne? Puis il y a des gens, faut pas oublier une chose, là. On a un party. Quand on regarde la courbe, on va parler de la courbe des taux d'intérêt hypothécaire moyens. Hein? Je regardais ça pas plus tard qu'hier, je pense. Et on voit à un moment donné que ça descend. Puis là, à partir de 2008, là, les taux d'intérêt étaient tellement bas pendant longtemps. Et là, les gens avaient un potentiel d'aller chercher de l'endettement et même s'enrichir, parce qu'on peut, tu sais, je te l'ai déjà dit, on peut s'enrichir avec de l'endettement. Évidemment, ils ont acheté un duplex, ils peuvent avoir investi dans de l'immobilier, ouais. Ils ont augmenté leur valeur patrimoniale.
J'ai compris ça sur le tard, Pat, parce que moi, j'avais pas la chance de côtoyer des gens comme toi, tu sais, qui faisaient de la gestion de patrimoine ou encore des planificateurs financiers ou encore des comptables. T'sais, moi, je faisais affaire avec une firme, ils me demandaient mes papiers, puis ils me donnaient mon enveloppe après, puis ils me disaient, tiens, c'est ça que tu vas peut-être recevoir en remboursement d'impôts. Ouais. Mais à un moment donné, je suis tombé sur un article, je pense que c'est du Journal de Montréal ou Journal de Québec, et ça parlait de Céline Dion, sa maison dans le temps avec Renan Jalil qui était à l'île Bizarre. Puis il nous disait qu'elle avait une hypothèque de temps.
Oui.
Là, je m'excuse, le sacre. Là,
c'était pas Sainte-Rose?
C'était sur l'île Bizarre.
Ah oui, OK.
Puis ouais, à ce moment-là, j'étais mal engueulé. J'ai dit, sacrément, qu'est-ce qu'elle fout avec une hypothèque? Et là, j'ai demandé ça à un gars comme toi qui s'est compté, qui a dit... Oui, mais c'est parce que son argent, elle le met ailleurs. Son argent, à elle, elle le fait fructifier ailleurs.
Ton point est tellement révélateur. Je dis souvent que j'ai probablement plus d'endettement que bien du monde. Mais moi, de voir, puis je dis n'importe quoi, là, c'est pas vrai, là. Mais mettons, je dois 2 millions, mais je vaux 10 millions. Ben, il n'y a rien là.
Je me sens de levier. Un 8 millions de lousse.
Tu sais, puis à un moment donné, j'ai quelqu'un de fortuné qui m'avait dit, ben, avant que je sorte l'argent de mon entreprise, puis que je m'impose sur le principe d'intégration, puis que finalement, je paye du 53,4%, je vais aller le chercher sur ma marge hypothécaire. La banque, elle me fait ça à 6%.
Exact.
Fait qu'au lieu de payer de l'impôt sur mon argent que je vais décaisser, je vais emprunter à place. Mais quelqu'un, le commun du mortel, va dire, bien, si t'empruntes, c'est parce que t'es cassé. Attends un peu, là. Si t'empruntes pour investir, on est ailleurs. Et c'est le principe même d'enrichissement. Là, on parle ici de levier. Mais encore là, il faut faire attention. Si quelqu'un nous entend et dit « OK, c'est ça qu'il faut faire. » Oh, attends un peu, ça joue des deux bords, là. Parce que tu empruntes de l'argent pour investir. Il y a des gens qui nous entendent, là, qui empruntent pour aller pour être sur la bourse, là. Il y a toutes sortes de programmes qui existent où, là, ils vont t'avancer un montant, 100 000, 50 000. Puis là, tu as un engagement avec la firme. Puis c'est comme si la firme te prêtait l'argent pour trader pour eux autres. Il y a des gens qui tradent là, sur de l'argent, on appelle ça compte sur marge, etc.
Ben, il essaie de faire ça aussi au casino.
Puis ça joue ces deux bords. des fois, c'est ça.
À Vegas, ça a l'air qu'à Vegas, tu peux faire ça. Tu empruntes de l'argent avec l'argent du casino pour toi gagner.
Ben oui, ça existe. Ça marche aussi, pas c'est le même principe. Mais c'est pour ça, des fois, on dit on joue à la bourse, faire attention, on peut investir à long terme.
Moi, je donne pas.
C'est pas de la spéculation, normalement, qu'on va faire. Mais ça existe quand même, le principe d'emprunter pour investir à tout égard.
Moi, je donne pas grand conseil dans la vie, là, mis à part si je suis persuadé de ce que je vais dire. Peu importe l'âge que vous avez, confiez-vous à quelqu'un qui connaît ça, que ce soit un comptable, que ce soit un planificateur financier, un vrai, pas ton beau-frère, que ce soit un gestionnaire de patrimoine. Rencontrez ces gens-là le plus rapidement possible dans votre vie. Que vous ayez 18 ans ou que vous ayez 50 ans, ça vous prend ces professionnels-là autour de vous pour vous faire économiser du temps de travail versus ce que ça va vous rapporter.
Tout à fait. Ils sont là-dedans à la journée longue. Puis normalement, quand tu es là-dedans, tu n'es pas là-dedans juste pour gagner ta vie, là. C'est de la passion. C'est comme les gens qui sont dans la médecine, ils ne sont pas juste là-dedans pour gagner leur vie. C'est des passionnés. Tu ne peux pas être en finance, pas être passionné. Puis là, ils suivent les marchés, puis ils sont allumés, puis ils veulent être bons, puis le souci d'être professionnel avec leurs clients. Puis moi, Yannick, là, tous ceux que j'ai vus, j'ai connus, j'ai rencontrés ou que je rencontre encore, qui sont dans des, qu'on appelle la gestion de fortune, gestion de patrimoine, tu sais, gestion privée, gestion de fortune, gestion de patrimoine, toutes sortes d'appellations, family office, des fois avec des trucs à 25 millions et plus, etc. Tu sais, des familles, là, tu sais, des grosses fortunes. Là. Mais ces gens-là sont entourés d'énormément de professionnels. Ils n'ont pas le choix parce que ça prend une poignée de professionnels. Tu sais, quand tu commences à faire tes structures, puis tu commences à... Quelqu'un ne pourra pas se faire une fiducie avec une application, là, son cellulaire, là.
Non.
Tu sais, à un moment donné, il faut aller chercher les vraies personnes. Fait que je comprends que... Puis ce qui est dommage, c'est drôle, on parle de ça, mais ce qui est dommage, c'est que puis je ne veux pas être insultant, mais les petits épargnants, là, qui ont 5 000, 10 000, 15 000, peu importe, là, ils n'arrivent pas à trouver les professionnels. Parce que le professionnel, il a autant de responsabilités que celui qui investit 10 000 et celui qui investit 1 million. Fait que là, à un moment donné, les professionnels, avec tous les frais et tout ce que ça coûte pour leur bureau, ouais. Ben, à un moment donné, ils vont aller, malheureusement ou heureusement, ils vont aller chercher des gens qui sont un petit peu plus fortunés. Alors, il y a quand même une partie de la clientèle qui est un peu laissée pour compte. Je trouve ça dommage, mais il y a encore des professionnels qui vont vous prendre, même si vous avez un petit montant.
Vous allez voir un planificateur financier, puis moi, c'est ce qui est arrivé. Là. Oui. C'est un planificateur financier que j'entendais à la radio. Puis je trouvais qu'il avait l'air de savoir bien des affaires. Puis je l'ai contacté. J'étais pas vieux à l'époque. Mm-hmm. Je l'ai contacté, puis il m'a dit, « Moi, je peux pas m'occuper de toi. J'ai des clients, puis j'en ai assez. Par contre, j'ai des associés qui commencent dans le marché, sont hyper connaissants du marché, puis sont capables de t'aider. Et j'ai été référé à quelqu'un qui, lui aussi... » Fait qu'on a comme grandi ensemble. Ça fait 26 ans que j'étais avec. Ça fait 26 ans que j'étais avec. Puis j'ai le même. Il a commencé sa carrière avec moi. Là. J'étais dans ses 10 premiers clients. Puis c'est une relation qui
s'est bâtie.
Il est
rendu à 84 ans aujourd'hui? Là?
Non, il n'est pas bien plus vieux que moi. Je pense qu'il y a 10 ans de plus que moi.
Ah, quand même. Tu l'as encore pour un bout.
Il a la même couleur de cheveux que toi.
Ça veut dire quoi, ça?
Ah, ouais, c'est ça. Il a la couleur de cheveux d'expérience. Ce soir, on a le plaisir de parler avec Pat Raymond du podcast Financièrement parlant. On peut retrouver ton podcast à quel endroit, Pat?
Oui, sur toutes les plateformes, des plateformes de balado, podcast. Là, je suis un peu partout. On fait ça pour s'amuser, c'est totalement gratuit. On a beaucoup d'invités professionnels, comme on parle, là, les planificateurs, des conseillers, des fiscalistes, des comptables, des gens qui viennent me jaser. Puis j'ai challenge, puis je m'amuse de mon sous-sol pour les faire sortir de leur zone de confort. C'est mon plaisir aussi.
On fait une courte pause, comme disait l'autre. Touchez pas à ce piton-là, on revient.
Marceau, le soir. Gravel, dans le retour.
Bien, hello, Boulevard, c'est quoi ton nom?
Kevin.
Audrey prend son cellulaire, je pense qu'elle note Kevin aussi.
Oui, oui.
Moi, mon genre, Kevin.
Oui, comment ça va, mon ami?
Ben, très bien, toi?
Oui, ça va, merci. C'est quoi ton nom?
Ben, il m'appelle Kevin, mais si vous voulez, je peux trouver un autre nom.
Salut, c'est quoi ton nom?
Hello, Kevin.
Ah,
pas vrai.
Non!
Ça va faire... Boulevard 102.1, la radio
au
des
au moins, ils sont restés là, même si Audrey les a insultés.
Kevin, pour le concours Papa Roach, c'est 0 en 3. Essayez un autre.
Parfait, Kevin.
Vous écoutez Boulevard 102.1, la station qui rit de vos prénoms.
Gravel dans le retour, tous les jours en semaine, 14h.
Ouais, puis tous nos bons coups, les niaiseries d'Audrey, puis notre vie privée qui l'est plus pantoute, tu retrouves ça sur le blvd.fr.
Hey, ça en fait des choses à écouter, ça.
Jusqu'au 9 mars, viens en chum au village nordique du Port de Québec. Vis l'expérience inoubliable de la pêche blanche en plein cœur du centre-ville. Profite des animations, des igloos géants, du food truck et de l'équipement disponible sur place. Cette semaine, écoute Gravel dans le retour. On veut connaître ta meilleure anecdote de pêche, la plus épique. Tu pourrais gagner ton accès quadruple au village nordique du Port de Québec en plus d'une carte cadeau sale de 50$. Boulevard 102.1 et le village nordique, fier partenaire de tes meilleurs souvenirs d'hiver.
Avec Québec et Sainte-Foy Mitsubishi, roulez en RVRES 2024 traction avant pour aussi peu que 99$ par semaine. En prime, on vous offre les tapis d'hiver. Financement sur 84 mois sans acompte. Tout ça seulement chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi.
L'Atelier, c'est un incontournable sur Grande Allée pour manger, boire et célébrer. Envie d'une soirée réussie? Ambiance festive décontractée. Parfait pour un souper entre amis, un événement de groupe ou un tête-à-tête. Savourez nos tartares, burgers et plateau à partager, accompagné de cocktails signature créés par notre chef mixologue. À chaque soir, laissez-vous porter par la musique live. Manger, boire, célébrer, une seule destination, l'Atelier sur Grande Allée. Réservez dès maintenant sur bistrolatelier.com.
Moreau PRS, c'est près de 40 ans d'expérience, des produits faits sur mesure selon vos besoins et des matériaux de haute qualité. Le 10 mars, c'est l'ouverture de notre nouvelle succursale à Québec, au 2000 boulevard Amel. Pour tout ce qui est patio, rampe et solarium, c'est Moreau PRS.
Être connecté à tout et branché aux atouts, le quartier Mosaïque, c'est mon nouveau beat de vie. Borne de recharge, aire de travail équipée, resto café et bus à ma portée. Le quartier Mosaïque offre des condos locatifs branchés au cœur de Le Bourgneuf. Pour visiter, quartiermosaïque.com.
En tout cas, je sais pas comment tu fais pour avoir autant de lunettes. Là, tu changes aussi souvent que tu changes de bobettes. En tout cas, j'espère.
T'es drôle. J'ai beaucoup de lunettes parce que je les prends chez Scoop Vision. Je vois très bien et c'est pas cher. Scoop Vision, des lunettes au prix du web.
Votre aventure commence ici. Avec Efficience Soins Infirmiers, obtenez une consultation santé voyage complète avant votre départ. Profitez d'un service sur mesure pour des vacances en toute quiétude. Venez nous voir à Charlebourg, Le Bourgneuf ou Lévis pour préparer votre voyage en toute confiance.
Imaginez un condo moderne, lumineux à Sainte-Foy ou Lévis, un espace à votre image,
confortable et sans tracas. Vivez l'expérience Immeuble Roussin dès maintenant. Trouvez votre condo locatif en visitant immeubleroussin.com.
Professionnels de la construction et du design, bénéficiez de notre département dédié aux partenaires chez Léopold. Du 24 février au 1er mars, profitez de plusieurs rabais sur nos plus grandes marques durant notre vente Expo Habitat. LéopoldBouchard.com, votre partenaire de confiance.
Chez Canac, on engage.
Pourquoi?
Ben parce qu'il y a des postes ouverts dans pas mal tous les départements.
Pourquoi?
Vu qu'on donne des horaires flexibles, ça prend du monde pour les remplacements.
Pourquoi?
Ben parce que les prix ridicules, ça attire bien des clients, puis il faut les conseiller.
Pourquoi?
Ben parce qu'on fait ça depuis 150 ans.
Pourquoi?
En tout cas, postulez maintenant en magasin ou en ligne.
Pourquoi?
Ben parce que c'est de même qu'on applique pour avoir une job.
Pourquoi?
Hey, sérieux là, j'espère que t'appliqueras pas, toi.
Pourquoi?
Passez au vert avec le Volkswagen ID4 2024. Maintenant offert avec le boni 100% électrique de 8000 $. Laval Volkswagen vous offre un rabais additionnel de 2000 $. C'est plus de 10 000 $ de rabais avant-taxe sur votre prochain ID4. Le moment est venu de vivre l'électrique comme jamais auparavant. Confort, technologie et performance sont au rendez-vous. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
C'est février sans alcool aux Trois Brasseurs. Relevez le défi avec nos savoureuses bières blondes, sur à la framboise et IPA sans alcool. Pour chaque canette sans alcool ou Coca-Cola vendue, $1 sera remis à la fondation de Sober Lab. En février, faites un geste pour vous et pour une bonne cause aux Trois Brasseurs.
Bon, hey, je suis un animal puis je ressemble à ça.
Mais là, c'est un chien!
Non, c'est pas un chien, c'est...
T'es tellement un chien,
man! Non, je suis un loup! Écoute!
Amateur de devinettes, au casino en ligne playojo.net, on sait comment avoir du vrai plaisir. Avec des succès comme Wolf Gold et des tas de machines à sous et de jeux de table passionnants chaque semaine, ressentez cette sensation sur playojo.net dès aujourd'hui. Ouvert à tous les joueurs, 18 ans et plus, ceci n'est pas un site de paris en ligne, s'il vous plaît, jouez de manière responsable.
Sentir le plaisir, Playojo.
102, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est
Boulevard.
BLVD.
De 1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Ce soir, on a le plaisir de passer la soirée avec Pat Raymond, un ex-gestionnaire de patrimoine, un ex-militaire de l'armée canadienne qui a travaillé fort pendant des décennies et des décennies. C'est un investisseur aussi. C'est un gars qui est à la retraite. Es-tu indépendant de fortune? Je pense qu'on peut dire oui. Oui,
bien, il faut que je vive modestement. Il faut que je vive modestement parce que je ne vaux pas 5 millions puis je ne vaux pas 10 millions. Puis si tout va bien avec la santé que j'ai, il me reste au moins une quarantaine d'années à vivre. Quand tu te mets à diviser ça, tu dis ça prend quand même beaucoup de sous.
Ça te stresse-tu
tant que ça? Ben, ça me stresse toujours.
Ouais.
Puis à un moment donné, je me suis dit, ah, quand je vais avoir tant ou quand je vais valoir tant, je vais arrêter de stresser. Hein?
C'est pas de même.
Non, ça, c'est, écoute, t'es stressé tout le temps. Puis c'est un peu mon état d'âme constant. Et voilà que moi, j'ai eu mes enfants dans la quarantaine. Donc, je suis peut-être pas le 55 ans qui est un peu comme tout est réglé, puis tout va bien, puis les enfants sont rendus organisés. Puis, tu sais, moi, mes enfants sont encore, c'est le secondaire. Puis, tu sais, fait que là, j'anticipe le cégep, l'université. Évidemment qu'ils sont full, comment on dit, régime épargne sud et tout. Mais on y pense parce qu'on se dit, ben écoute, je te disais tantôt à la blague, ou en tout cas des exemples que moi, je me décaisse, mettons, un montant par année, j'ai-tu besoin de ma conjointe travaille encore, tout ça? Et puis jeune, elle a encore du temps à faire. Mais tu te dis, ben écoute, si je décaisse trop, là, tu refais ta planification, puis tu te dis, ben là, c'est à 73 ans que j'aurais pu, il va falloir que je fasse des compromis à quelque part. Fait qu'on essaie de garder un RIP qui est plutôt linéaire, tu sais, qui va... Puis, tu sais, il y a un principe de décaissement aussi à la retraite. Puis, des fois, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tu sais, je dis souvent à la blague, je le dis sur mon podcast, puis c'est très vulgarisé de mon sous-sol. Puis, vous allez voir vos professionnels vous faire expliquer. Mais je dis tout le temps, tu sais, un REER, ça se décaisse sur 25-30 ans. Ça se décaisse pas l'année que tu vas aller en croisière puis que tu veux te la péter à travers le monde. 2-3 visites à Dubaï.
Il y en a qui font ça.
Bien là, c'est parce que tu vas te contaminer au niveau fiscal.
T'as-tu remarqué que c'est dans les décennies, quand tu transfères de décennies?
Oui.
Moi, les chums de 40 ans là, qui ont décidé de décaisser puis de partir sur une go pendant un an, j'en ai énormément. J'ai des chums aussi qui ont été un peu plus intelligents, qui ont décidé de se partir en entreprise à 40 ans. Puis les autres, c'est dans 50 ans, même affaire, ils font. Ils dépensent là en disant, hey, On va dépenser de suite. À 80 ans, je ne sais pas, je vais être encore là.
Ben oui, je peux comprendre. Je te dis que si j'avais pas d'enfant, ce serait différent. Mais je pense bien sûr à mes 10 prochaines années où les enfants vont être encore, je présume un peu comme on dit, une espèce de dépendance pour la suite des choses, les études, et ça peut durer quand même un bon bout de temps, des enfants. Ouais. Et des fois, ils partent puis ils reviennent. Ça, c'est un autre point qu'on remarque. Puis, tu sais.
Ah, moi, j'ai changé. Je vais changer ses rues.
C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, on parle de REER de ce temps-ci. Tu sais, les fameux REER, c'est certain que tu te prends une année sabbatique puis tu te sors 15 000 de REER. Tu n'en as pas d'impôt. Il n'y a pas de problème. Parce que tu as une année à zéro, tu sors 15 000 de tes prêts imposés. On va tout te redonner. Si tu as eu de l'impôt, on va tout te le redonner.
Mais c'est un 15 000 qui reviendra.
Mais c'est possible.
C'est un 15 000 qui ne travaille plus.
Ben là, c'est un 15 000 qui ne travaille plus pour soi. Tu sais, il y a toujours ce fameux phénomène-là. C'est drôle, je vais dire de quoi qui va être assez frappant. Mettons un enfant qui vient au monde, puis tu lui donnes 5 000 $ à ton enfant. À 65 ans, 5 000 $ placés sur des rendements, mettons qu'on va dire des rendements plutôt modérés à audacieux, mais à 7-8 okay, sur les marchés, jusqu'à 65 ans. À 65 ans, il y a un million et quelques en banque, là, ou dans un fonds quelconque. Il va avoir, c'est juste le principe de comprendre qu'une retraite, là, un million, ça va être quoi dans 65 ans? Moi, je dis tout le temps, tu sais, là, 50 ans, nos millionnaires, on tripait sur le mot millionnaire. Puis aujourd'hui, 50 ans plus tard, on parle encore de millionnaire. Mais le millionnaire d'aujourd'hui, comme le millionnaire de l'époque...
Pas la même affaire.
Le millionnaire de l'époque, c'est comme 7-8 millions aujourd'hui, là. Mais mettons que tu te retrouves avec un million dans 65 ans.
Ça va ressembler à quoi, à ce million-là?
Ouais, ben là, c'est sûr.
Ça va être un 200 000,
mais c'est juste le principe de dire, ta retraite, tu peux la financer avec le moins d'argent si tu as le plus de temps possible. T'sais, j'ai dit à quelqu'un, un jeune, je fais des consultations des fois, une consultation par deux semaines, je ne cours pas après ça sérieusement. Là. Des fois, payez-moi le lunch, je m'en vais vous jaser une heure, puis après ça, c'est fini, puis je réfère des professionnels. Moi, j'ai le beau jeu, je réfère appel tel planificateur, va t'aider. Mais tu vois, il dit, hey, j'ai quasiment 100 000 $ de côté à 28 ans, c'est pas beaucoup pour ma retraite. Mais j'ai dit, sais-tu quoi? Ça dépend de la retraite que tu veux, on ne sait pas. Mais tu as presque réglé ta retraite à 28 ans avec 100 000 $. Parce que on peut penser qu'à 40 ans, ça sera peut-être 200. À 50, ça sera 400. À 60, ça sera 800.
Avec les intérêts cumulés.
Puis à 60, tu ne vas pas tout décaisser. Fait que tu te rends jusqu'à 70, peut-être autour de 1,5 million, 1,6 million. Mettons que tu as commencé à décaisser un peu. Ouais. Fait que tu peux financer ta retraite avec 100 000. Uh-huh. Ou celui qui se réveille à 50 ans, dans nos âges, mettons, toi, tu as presque ça, là, 50. Puis tu dis, ben là, je veux financer ma retraite, puis j'aimerais ça avoir 1 million. Ben là, tu commences à faire tes projections, puis tu dis, ben c'est 3 800 par mois que tu vas devoir mettre de côté. Là, tu dis, ben voyons, je fais à peine ça, ou je fais, ben c'est ça. C'est pas évident quand tu y penses. Mais plus tu finances ta retraite en jeune âge, moins ta retraite va coûter cher. C'est le temps qui compte.
Exact.
Le rendement, oui. Mais oui, tu peux projeter avec un rendement de 5%. C'est pas beaucoup. Le beau-frère fait bien plus que ça. Mais attends un peu. Un 5% sur un 5% sur un 5% sur un 5%. Ouais. Tu sais, le principe inversé, comme ta maison. Tu dis, ma maison, c'est 4% d'intérêt. Mais ta maison, tu l'as payé une fois et demie, deux fois et demie, ou ça dépend. Des fois, il y a des gens, au bout de 25 ans, ils ont payé la maison deux fois, ils ont payé. Alors, c'est quoi là, le taux d'intérêt qu'on applique à ce moment-là? T'as-tu payé 50 % d'intérêt sur ta maison au final? Ouais. Tu sais, c'est juste 4 % Oui, mais 4 % par année. Je comprends là que il y a une espèce de déclinaison qui fait qu'à un moment donné, c'est du capital les dernières années. Je peux comprendre ça, là. Mais c'est juste de. On fait les coins ronds. Puis on a l'impression que j'ai mis mon char sur la marge de crédit à 6 %. C'est bien moins cher. Le garage était à 10. Mais ton char sur 25 ans, il va te coûter combien? T'arrêtais mieux de payer 10 sur 4 ans?
Pat, je veux parler un peu de l'économie canadienne. Il nous reste quelques minutes, là, un genre de 4-5 minutes. Est-ce que, comment t'entrevois 2025? Est-ce que ça va être semblable à 2024, semblable à 2023?
Ça va être différent.
Oui.
Je t'ai dit ça sur ma chronique
Le gros orange, l'autre bord, l'autre bord, il nous laisse dans l'incertitude pas mal.
Je faisais l'analogie avec l'avant-COVID, après-COVID. Je sais qu'on est en train d'entendre ce mot-là. Mais là, il y a l'avant-Trump, il y a l'après-Trump. Et je reste convaincu que peu importe comment, au final, ça va se nuancer, tout ça, là, parce que là, il y en a qui ont panique pour rien. Là. Si tu remarques, les marchés, on dit tout le temps, les marchés ont toujours raison. Les marchés n'anticipent pas que les tarifs de 25 % seront appliqués sur à peu près tout. Hein? Puis voilà que moi, je pense aussi que la plupart des tarifs, c'est-à-dire les tarifs ne seront pas appliqués sur la plupart des produits. Il faut comprendre aussi que le pétrole brut du Canada qui s'en vient au Texas, qui est raffiné, là je résume évidemment, là, c'est pas rigoureux mon affaire, et qu'après ça, qui nous est shippé, puis qu'on consomme notre propre pétrole, qu'on fait raffiner justement avec des installations qui sont faites pour le pétrole canadien des sables bitumineux, qui nous est renvoyé et tout ça, ben, ça crée un déficit commercial des États-Unis vers le Canada, mais en fait, est-ce que c'est un réel déficit, si on y pense? Il y a quand même une entente de bons procédés qui était là. Là, présentement, on dirait qu'il n'y a plus d'entente de bons procédés. M. Trump, lui, ce qu'il fait, je vais dire positivement, c'est peut-être une des bonnes choses pour nous donner un coup de pied dans le derrière.
Parce qu'on a
toujours...
Parce
que le problème du Canada,
ouais,
juste là-dessus, là, le problème du Canada, c'est la productivité. Et la productivité, lorsqu'on a, comme par exemple au Québec, 40 % du PIB, 40 % de ce qui est produit en revenus par habitant, c'est des gens qui travaillent de près ou de loin avec les institutions gouvernementales. Mm-hmm. Quand tu y penses, c'est parce que cet argent-là, oui, tu vas me dire, cet argent-là revient dans l'économie puis ça, mais il n'y a pas de production. Puis on n'a plus de manufacture parce qu'on s'est donné sur bonne vertu, en bonne vertu. Je ne sais pas si ça se dit de même.
Tu sais, le grand oranger, là, l'autre bord, il nous donne une leçon. Là, c'est-à-dire...
Mais je pense que oui.
Le grand frère qui était là depuis des décennies et des décennies, là, il dit, moi, je veux voler mes propres ailes. Toi, tu vas devoir apprendre à voler tes propres ailes. Puis après ça, on fera affaire ensemble. Il veut plus nous défendre. Il veut plus nous faire des deals. Puis il veut que ce soit une relation peut-être un peu plus équitable. C'est ce qu'on comprend. De notre côté, on a tellement tout le temps été dans l'attente des États-Unis. On a